Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, pour ce premier lundi de mai, au sommaire de cette toute nouvelle émission de Chut, on écoute la télé, deux coups de cœur ciné, le premier consacré au film C'est quoi l'amour? Dans quelques instants, nous allons être rejoints par le réalisateur Fabien Gorjard, qui sera accompagné de Lies Salem, Saul Benchetrit, Vincent Macaigne et Céleste Brunkel. Un rendez-vous à ne pas manquer. Notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à la série Enchaînée qui débarque mercredi soir sur France 2, déjà en ligne sur France.tv. À cette occasion, le créateur de la série Alain Moreau, la réalisatrice Laure de Butler et les comédiens Lolita Tergimena et Enzo Rose seront nos invités exceptionnels. Et puis en fin d'émission, on parle beaucoup d'amour aujourd'hui, hein, entre C'est quoi l'amour et maintenant pour le plaisir, ça sera en fin d'émission. Rim Kérissi et Alexandra Lamy seront nos invités exceptionnels aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on démarre maintenant avec notre premier coup de cœur ciné de la semaine.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur cinéma s'appelle C'est quoi l'amour? Ça sort mercredi au cinéma après La vraie famille qui nous avait beaucoup ému il y a quelques années. Eh bien, Fabien Gorjard revient avec cette comédie. Bonjour Fabien et merci d'être là.
Bonjour, merci à vous de nous recevoir.
Eh bien, toujours avec plaisir. On a Saul Benchetrit qui est avec nous. Bonjour Saul.
Bonjour.
Merci d'être là aussi, qui joue le rôle de Raphaël. Et puis on a Lies Salem qui est avec nous aussi. Bonjour Lies.
Bonjour.
Merci d'être là, qui joue le rôle de Sofiane. On va parler évidemment de ce film. Alors Fabien, on est beaucoup plus dans la comédie que sur La vraie famille, mais malgré tout avec beaucoup de pointes d'émotion et des petites touches comme ça qui viennent par moment, en tout cas, créer une émotion chez le spectateur qui est vraiment très très chouette à voir, parce qu'on oscille vraiment entre des moments d'émotion, des moments de rire, mais vraiment de bons rires en plus là.
Ça me fait plaisir que ça soit reçu comme ça, parce que c'était un peu le but au départ, parce que je sortais effectivement d'un mélodrame, je savais que j'avais envie de continuer encore à travailler un peu sur les thèmes qui m'animent, mais je voulais le faire avec une autre tonalité, quoi. Donc c'est vrai que ce prétexte de procès en unité de mariage qui permet d'interroger ce que c'est que l'amour, ce que c'est que les liens familiaux, et que ça parte d'abord d'un couple pour que ça rayonne après, que ça éclabousse sur tout le reste de la famille, ça m'intéressait beaucoup et je sentais qu'il y avait un sujet là à en rire, en tout cas évidemment. Et comme on questionne de manière peut-être un peu, voilà, on creuse certaines questions sur les liens, et ben il y a l'émotion qui ressurgit. Et
oui, c'est à travers les personnages de Marguerite et Fred, puisque Fred va faire une demande à Marguerite de demander une nullité devant l'église, parce que lui il veut se remarier avec Chloé. Et c'est évidemment toute cette histoire de famille qu'on va suivre, et puis aussi l'interrogation du passé qui vient des fois créer une espèce de nostalgie. C'est aussi tout ça, et puis les familles aussi recomposées, et on voit que des fois il peut y avoir une belle unité, il peut y avoir une belle entente aussi.
Bah oui, en tout cas le film tend à parler de conciliation plus que de destruction. En tout cas, c'est la dynamique que j'avais envie de construire. On appelle ça un feel good movie. J'assume complètement ce terme en espérant de l'avoir fait de la manière la plus complexe qui soit.
Alors Saul, Raphaël, on dirait que c'est une ado haute en couleur, je dirais.
Oui, elle est, elle a 15 ans, quoi. Elle passe par plein d'émotions. Elle est affirmée. Je pense que c'est aussi par un manque de confiance en soi, mais quand même, quelque chose d'ancré en elle. Elle sait quand même plus qui elle est que beaucoup d'autres adolescents. Et c'est pour ça qu'il y a plein d'émotions qui explosent comme un petit volcan.
Oui, c'est vrai, un volcan, ça c'est bien dit. Raphaël, c'est un vrai volcan qu'on va pouvoir voir. Et c'est vrai que comme on interroge effectivement l'amour sous toutes ses formes dans ce film, c'est les premières amours d'une adolescente aussi qu'on va découvrir.
Oui, tout à fait. C'est les premiers mois amoureux pour Raphaël et pour Tom. Et c'est, je trouve que c'est très très bien dépeint. C'est vraiment exactement comme ça que ça se passe.
Ils peuvent plus se lâcher ces deux-là.
Oui, voilà, exactement. Et que en l'espace de 3 jours de séparation, c'est la catastrophe.
Le drame.
Exactement, c'est le drame. Moi, je me suis vraiment retrouvée là-dedans. Les pleurs faciles, la joie complètement explosive. Ouais.
C'est ça qui est chouette. Yes, c'est le papa qui lui, Sofiane, assiste un peu aux premières amours naissantes de sa fille. C'est aussi la famille recomposée puisque Sofiane est le mari de Marguerite et qui lui va aussi des fois s'interroger un peu sur tout ça, sur ce qui se passe, sur la demande de Fred. Il y a beaucoup d'interrogations qui vont arriver chez Sofiane.
Il y a surtout une intuition qu'il ressent assez rapidement, celle d'une zone de turbulence qui va arriver. Parce que ce genre de situation, sans doute, va amener Marguerite, donc sa femme, la mère de son enfant, à se replonger dans un passé mémoriel, sensoriel, charnel, qui va peut-être la troubler, ce qui est tout à fait compréhensible. Et j'ai l'impression que lui, il a cette intuition assez rapidement, et qu'il va, autant que faire se peut, peut-être à un moment donné, il va craquer, mais il va essayer de l'accompagner en lui évitant, à elle, de se cogner contre les coins de mur. Mais il peut pas tout faire.
Je trouve que c'est un papa et un beau papa très émouvant, Sofiane, parce que il y a Léa hein, qui est issue, comme on dit aujourd'hui, de la première couche entre Marguerite et Fred. Et c'est vrai que voilà, on sent aussi son attachement profond pour Léa autant quasiment que pour sa fille.
Oui, c'est ça. Je crois que c'est d'ailleurs ce qui lui est rendu comme hommage à un moment donné dans le film, et qu'effectivement il a élevé ses deux enfants, ses deux filles, avec ce qu'il a pu leur donner. Et tout à l'heure, j'ai repensé, donc je refais un tout petit peu un petit retour en arrière. C'est vrai que je trouve que la relation que peut avoir Raphaël à Tom dans le film, qui est passionné, qui est sans concession, qui est un premier amour, vient un petit peu faire écho et chez Marguerite, qui vit avec un homme depuis une quinzaine d'années, mais qui repense à ses premiers amours, à son premier amour, qui est Fred. Et donc, leur histoire d'amour vient un peu comme dans une balle de flipper, vient taper autant sur Marguerite que sur Sofiane, qui voit bien que Marguerite repense à ce que sa fille est en train de vivre. Et que, pour lui aujourd'hui, ce qu'il lui dit à la fin, d'ailleurs, que je trouve très juste, il comprend que le passé la trouble, c'est pas une raison pour insulter le présent.
Effectivement, pour ne pas être là au présent, effectivement. Fabien, le socle commun reste quand même la famille, hein, même si c'était traité sur les vraies familles, plutôt de manière drame et là plutôt comédie, mais c'est vraiment, j'ai l'impression, en tout cas, un thème qui tient à cœur.
Ah oui, c'est sûr. Après, c'est un truc d'intuition. On se sent animé par des problématiques, par des sujets. C'est pas calculé. Enfin, j'ai vu que j'avais encore envie d'y retourner. En tout cas, voilà, ça c'est sûr.
Quelle est la scène qui a été peut-être la plus jouissive à mettre en boîte, ou qui a été la plus compliquée, ou peut-être celle que tu redoutais le plus?
Celle qui me vient comme ça quand on me pose cette question-là, c'est évidemment, c'est une scène qui m'inquiétait beaucoup pour sa crédibilité. C'est la scène du mariage, du premier mariage de Fred et Marguerite, parce que c'est un mariage qui s'est passé il y a 20 ans, et c'est un film de mariage qu'on regarde, c'est un film dans le film.
Comment t'as fait là? Tu peux donner un petit secret ou pas? Est-ce que t'as fait appel, par exemple, à ce qu'on appelle l'IA aujourd'hui?
On a fait appel des effets spéciaux, ça c'est sûr. Après, leur sauce, ça, je sais pas, on m'envoyait du résultat. Je crois qu'effectivement, ça se passe beaucoup avec ces histoires d'IA, c'est-à-dire que ça enregistre les images de jeunes. Voilà, ils travaillent avec ça, c'est leur fond.
En tout cas, c'est extrêmement bien fait, on y croit vraiment, et c'est vrai que je trouve qu'on est beaucoup plus dans la vérité que si ça avait été deux autres comédiens qui les avaient incarnés jeunes, ça c'est sûr.
Ah bah ouais, et puis en plus, c'est vraiment la scène d'avant, ils sont en train de se dire que finalement, ils sont presque convaincus, enfin Marguerite fait exprès de se convaincre que leur mariage n'avait aucune raison d'être, et puis la scène d'après, ils regardent leur mariage, l'occasion est possible, et là on voit que qu'il y avait des sentiments qui étaient là quand même, quoi. Donc c'était important pour ça.
Saul, pour toi, la scène qui a été la plus drôle ou la plus difficile?
Moi, je me souviens beaucoup. Après, vraiment tout, c'était tellement fou parce que on tournait jamais au même endroit. On tournait un peu partout. Donc c'était assez génial de pouvoir voyager à travers ce film. Donc
et puis Rome, quand même.
Exactement. Donc Rome, déjà, c'était fou. Donc il y avait plein de scènes. Moi, toutes les scènes me tenaient beaucoup à cœur parce que vraiment Raphaël, c'est une personne que j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le premier jour de tournage, c'est une des premières scènes du film, je crois, et c'est celle où Marguerite et Raphaël se disputent très fort dans la maison sur le sujet que Tom reste ou pas dormir à la maison. Et c'est la première fois que je jouais avec Laure. Et c'est vrai que de pouvoir partir, mais en totale impro d'insultes avec Laure qu'elle a mis, ça restera toujours un peu gravé dans ma mémoire, parce qu'on pouvait se balancer les pires choses à dire, et c'était génial, quoi. Je me suis énormément amusée sur cette scène.
C'est génial. Yes, dernière question pour toi, pareil. La scène qui t'a peut-être le plus ému, celle que tu redoutais le plus, celle que t'as préférée.
Moi, il y en avait une qui m'a fait beaucoup rire, mais qui n'est pas dans le film. Alors, je sais pas si je peux en parler, quoi.
Bon, ça sera une scène VOD DVD.
Non, voilà, ça sera une scène des.
Scène bonus.
Une scène bonus, c'est une scène où je plongeais dans la piscine. Je faisais une sorte de blague, enfin, qui avait été écrite. Hein, et donc, moi, je m'étais bien amusé à faire ça. Mais pour des raisons.
Tout à fait. Parce qu'elle était vraiment bien. Évident. Elle était. De temps en temps, c'est douloureux d'enlever des scènes pour des questions. Je vais pas faire décortiquer le film, mais voilà, celle-là, elle sera dans les bonus.
En tout cas, le film sort mercredi, ça s'appelle C'est quoi l'amour, nouveau film de Fabien Gorgeard. On va écouter la bande-annonce et on va revenir dans un tout petit instant avec Vincent Macaigne et Céleste Brunkel qui nous rejoignent. Merci beaucoup les amis,
merci,
à bientôt.
Merci à vous. Merci.
Moi, c'est Marguerite. Dans ma vie, il y a Sofiane et notre fille Raphaël.
Les petits copains, les devoirs, le sport, tout rentre pas.
C'est pas les petits copains, c'est le petit copain.
On peut parler de tout ça à la maison. Merci. Tu prends ça comme un exercice, c'est des choses qui arrivent.
Il y a aussi Léa.
Bon, j'y aille là.
La fille que j'ai eue avec mon ex, Fred.
Toi et moi, on s'est mariés à l'église et je peux pas m'y remarier, tout simplement parce qu'on peut pas se marier deux fois à l'église.
Tu vas te marier ?
Bah oui.
Allez, C'est quoi l'amour ? Le film de Fabien Gorgeard à ne pas rater. Chose première, chose due, ils sont là, ils sont avec nous. Céleste Brunkel qui nous rejoint. Bonjour Céleste.
Bonjour.
Merci d'être là. Et puis Vincent Macaigne est un habitué de l'émission. Maintenant, on se quitte plus cette année, dis donc.
Bonjour. On se quitte pas trop, quoi.
Et oui, il est toujours sur la poupée, hein, au cinéma, en ce moment. Et puis voilà, un nouveau film qui sort, C'est quoi l'amour? Et puis là, on rit de bon cœur, là, encore une fois. Et il y a beaucoup d'émotions aussi dans ce personnage de Fred, puisque c'est un ex-mari qui va demander à sa femme une nullité, en fait, de leur mariage à l'église. Et ça va emmener la famille dans tout plein d'aventures, jusqu'à Rome, carrément.
Oui, il y a beaucoup d'émotions. Moi, ce que je trouve très beau dans le film, c'est que finalement, Fabien nous raconte plein de visages que peut avoir l'amour. L'amour familial, l'amour d'adolescents, de jeunes, de moins jeunes. Et finalement, ce qui les lie, c'est cet effort qu'ils ont à être ensemble, cet effort à essayer de s'aimer. Mais je trouve c'est un très beau film pour ça. Et d'ailleurs, la fin avec Céleste qui est là, je la trouve très belle et elle résume totalement le projet du film, qui est un film très drôle pendant un certain temps et puis qui devient très profond et très émouvant.
Ouais, très très émouvant. C'est vrai qu'on va pas évidemment dévoiler quoi que ce soit de la fin, mais tu offres en tout cas une partition finale, Céleste, absolument à couper le souffle. Je dois te le dire. Céleste, on s'était vu pour le film de Sarah Souko il y a quelques années. Là, tu joues un personnage, celui de Léa, donc qui est la fille de Fred et Marguerite, du coup. Sur la première partie du film, on te voit beaucoup en visio, et en fait, le personnage va prendre toute sa dimension dans cette espèce de réunion de famille à Rome, du coup. Et c'est vrai que... Qu'est-ce que tu en dirais, toi, du personnage de Léa ? Qu'est-ce qui t'a plu en elle ?
Je pense pas trop en termes de personnage. J'ai l'impression que le personnage il se construit après dans l'écoute avec les autres. Enfin, j'aimais bien plutôt la manière dont je pouvais débarquer de cette manière dans le film aussi, parce que je trouve que les rôles secondaires c'est toujours quelque chose d'intéressant aussi à faire et à préserver, cette manière-là de rentrer, d'inventer du coup tout un hors-champ avec cette famille. Quand on se retrouve avec Marguerite et toi, Fred, quand je vois en fait mes parents réunis pour la première fois de toute ma vie, que je me retrouve complètement en enfance alors qu'on m'a pas vu dans le film avant. Enfin, je sais pas, c'était des espèces de couches que je trouvais assez drôles, et de créer des espèces de liens entre les personnages. Ce serait presque mathématique, en fait, les espèces de trucs à faire avec la petite sœur, d'avoir cette place-là à la fois de grande sœur responsable, mais en même temps ailleurs, et en même temps qui redevient une petite fille. Enfin, c'était plus ce cheminement-là qui me plaisait.
Moi, je dirais que c'est une jeune fille libre aussi.
Oui, parce qu'elle est assez responsable, elle est assez, je pense qu'elle est assez sûre d'elle, du coup, de ses choix, et elle disait tout à l'heure, Saul, et je trouvais ça pas mal, c'est que les personnages dans le film, ils sont assez sains, et bizarrement.
Ouais, c'est vrai.
Et que Léa, elle est très saine aussi dans ses choix de vie, dans sa manière de retrouver sa femme, enfin, il y a quelque chose de sain, et du coup, d'assez libre aussi.
Dans toute la famille, enfin, même dans les deux familles, hein, pour le coup, recomposées, il y a quelque chose, effectivement, de très sain dans ces personnages, et aussi dans le lien qui les unit tous.
Bah, c'est un film où les gens veulent s'aimer. En fait, on est dans un monde où les gens veulent essayer d'arrêter de s'aimer par tous les moyens, et je trouve que le film, c'est une forme d'utopie du monde aussi, c'est de se dire que c'est laborieux de s'aimer, mais c'est possible. Pas, je veux dire, de s'aimer amoureux, je parle de s'aimer, d'être en famille, de faire attention à ceux avec qui on a créé un lien, et ça a pris des années à se faire. Mais c'est très beau, et je pense qu'il y a beaucoup de choses, en effet, comme tu dis, qui sont dans le off. Par exemple, pour moi, c'était très important le rapport de Fred à sa fille. C'est quelque chose qui me troublait vachement pendant le tournage, parce que je me disais, mais c'est quoi la vie de ce père, en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a pas fait? Qu'est-ce qu'il a mal fait? Ou qu'est-ce qu'il a bien fait? Et finalement, on a un peu ça avec tous les personnages. Liès, toi aussi, on sait pas trop, en fait. Est-ce qu'elle en veut ou pas? Et ce qui est très beau, c'est qu'il y a une magie qui prend et on a l'impression de toucher beaucoup d'histoires personnelles de chacun des personnages, quoi.
Ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment le film est construit un peu comme un puzzle qui est constitué au départ, qui vole un peu en éclats avec cette demande, et toutes les pièces du puzzle se refont au fur et à mesure du film à différentes strates, mais en tout cas ce puzzle, on le retrouve complet à la fin, et c'est ça que j'ai trouvé en tout cas très très beau. C'est quoi la scène que t'as redouté le plus, Céleste? Celle que t'as préférée?
Bah, c'est vrai que la scène du discours, c'était le premier jour et je vous connaissais pas trop encore, vous avez déjà tourné en famille et tout ça, et moi je débarquais un peu. En plus, c'était un peu le pire scénario où t'arrives, tu connais personne, tu dois jouer la dernière scène devant un public de figurants. En plus, jouer devant des figurants, c'est un peu le pire parce que tu sais, parfois ils doivent faire semblant d'applaudir ou semblant, enfin, tu sais, tout l'artifice du truc souvent avec une grande masse de figurants. Mais comme là, les figurants, c'était un peu toute la famille de Fabien, il y avait quelque chose où t'étais juste porté par le truc, donc finalement redouté, mais pas.
Ça s'est bien passé.
Oui, voilà. Mais je sais pas, c'était. Moi, j'aimais bien les scènes de voiture. Ou ces scènes-là où, du coup, c'était des scènes entre nous, mais on n'avait pas à se parler, mais on était assez loin. Mais c'était un peu les scènes les plus fortes entre, du coup, les parents et leurs filles. Et mais en même temps, du coup, rien n'avait à dire. En plus, comme c'est tout le temps la galère de faire des rulings au cinéma, Fabien, il peut pas vraiment dire quelque. Enfin, il y a quelque chose. Ça se fait dans un chaos, et en même temps, c'est des moments importants. Et j'aimais bien que ça se fasse comme ça aussi, que ça passe par là et pas forcément par à chaque fois des choses installées, dialoguées. Et en plus, on était à Rome, donc.
Ouais, ça c'est chouette, partie du film à Rome. Toi, pour toi, Vincent, c'était quelle scène qui a été celle que t'attendais peut-être le plus, celle qui t'a fait le plus rire, celle qui t'a le plus ému?
Je sais pas, en tout cas, c'est vrai que le fait d'aller tourner en Italie, enfin, l'idée d'aller tourner en Italie, j'attendais quand même pas mal ça, parce que c'était chouette. Ouais, le prétexte d'aller tourner en Italie, puis. Et puis d'être en scooter dans les rues de Rome, c'était quand même chouette. C'est vrai que c'était très beau cette scène où t'es dans la voiture et on te suit. Et en fait, c'était presque magique parce que en fait, on se croisait, mais on était un peu qu'elle était kiwaki. Il fallait démarrer d'un coup et espérer vous croiser en fait, quoi. Ouais. Et du coup, il y avait quelque chose d'assez joyeux. Moi, ce que je redoutais le plus, c'est que le film soit rempli d'une forme d'émotion. C'était un truc que je redoutais et je trouve que quand je vois le film là. Il y a cette chose-là, il y a cette mélancolie-là que moi, j'avais un peu l'impression de percevoir dans le scénario. Et il y a aussi cette joie totale. Et chaque acteur est un monde total. Et en fait, c'est assez rare quand les films réussissent...
à mettre cet équilibre.
Ouais, en fait, en tout cas, quand Céleste arrive, c'est tout un monde avec Céleste, mais quand Saul aussi est là, c'est tout un monde qu'on voit avec Saul. Quand Laure est là, c'est tout un monde qu'il y a avec Laure. Quand Lies aussi, il est là, ou Mélanie Thierry. À chaque fois que la caméra s'attarde sur un personnage, on a envie de le rencontrer, et on a un plaisir de rencontrer son rythme propre. Et c'est très beau. C'est pour ça que ça me fait penser un peu au film de Nakache et Toedano.
C'est quoi l'amour? Ça sort mercredi au cinéma. On ne le rate pas. Céleste, Vincent, merci infiniment d'avoir être avec nous. Moi, il y a une chanson que j'adore. Et alors, on va pas dire pourquoi, surtout, on va mettre cette musique maintenant aux auditeurs qui nous écoutent. Mais en tout cas, c'est un clin d'œil au film. Et il faut aller le voir pour comprendre pourquoi on va le mettre. On va terminer avec Adaway, What is Love. On y va?
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci.
Bon, et du coup, il y a aussi Chloé,
la compagne de Fred.
Je dois signer quoi?
C'est un peu plus compliqué qu'une signature, mais enfin, c'est pas la mer à boire. Hein.
Est-ce avec lui que vous avez perdu votre virginité?
Il a pas arrêté de sous-entendre que j'étais une énorme pute, parce que toi, t'as dit que j'avais couché avec tout le monde, à tout va.
Qu'est-ce que tu fous avec une ultra-cato, toi?
Je l'améliore, toi.
C'est au Vatican que le dossier sera traité. Plutôt sympa comme châtiment. Un petit voyage à Rome.
Allez, dans quelques instants, on démarre notre spécial enchaîné Alain Moreau, l'heure de Butler, Lolita Tergimena et Enzo Rose nous rejoignent dans Chute, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chute, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
De ces personnes qui dès la première fois nous illuminent et rayonnent, nous laissent sans voix. Il y a dans l'air qu'elles fredonnent ce je ne sais quoi qui frappe fort, qui résonne là tout au fond de soi. Et toi, oui toi, tu fais partie de ceux-là. J'ai beau tout faire, tenter de déceler l'erreur, non rien n'y fait. Tu ris de tout ton cœur. Que tout m'éteint, tout me désespère. Et là en est le là, l'étincelle qui m'éclaire. Quand mes choix sont vains, quand mon chemin se perd, elle est la main qui sèche et les bras qui se serrent. À ses côtés, je sais que demain sera meilleur qu'hier. J'ai beau tout faire, tenter de déceler l'erreur, non rien n'y fait. Tu ris de tout ton cœur.
Rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et on démarre notre spécial enchaîné, ça débarque sur France Télévisions. Pour les plus malins, eh bien vous avez peut-être déjà vu la série en avant-première sur France.tv. Eh bien vous allez découvrir les deux premiers épisodes sur France 2. À cette occasion, le créateur de la série qui est avec nous, Alain Moreau. C'est les meilleurs, ça l'est Alain, bonjour Alain.
Bonjour.
Merci d'être là. Et Laure de Butler également qui nous rejoint, qui est la réalisatrice de cette fresque historique. Bonjour Laure.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. On sera rejoint par Lolita Tergemena dans quelques instants et Enzo Rose. Une grande spéciale aujourd'hui pour une fiction importante pour l'inconscient collectif, je pense, et pour aussi mettre l'histoire de la Réunion en valeur, parce que c'est ça, je pense, aussi hein, la volonté première, Alain.
Oui, la volonté première, c'était raconter, pour moi, découvrir mon histoire personnelle, l'histoire de l'île de la Réunion, puis la raconter à un maximum de gens et que tout le monde en France puisse en emparer, parce que c'est pas que l'histoire de la Réunion, c'est l'histoire de France.
Exactement, ça c'est bien dit. Laure, quand on a un projet qui nous arrive comme ça entre les mains, on se dit quoi ?
On dit qu'on a beaucoup de chance, évidemment, parce que ça nous offre un terrain de jeu qui est rare, quasi inexistant sur la fiction française. Et donc moi j'étais extrêmement excitée et galvanisée à l'idée de porter à l'image cette aventure.
Alors on y découvre l'histoire de Charles, qui est un riche propriétaire avec ses esclaves, hein, comme à l'époque évidemment à La Réunion, quand d'un seul coup un cyclone va dévaster à peu près tout ce qu'il y a sur l'exploitation, et il va se retrouver effectivement, alors je vais pas dire harcelé, mais mené de près par son voisin qui va vouloir essayer de racheter ses terres, mais surtout aussi ses esclaves. Il y a tout plein de choses qui vont venir s'entremêler à travers ce personnage incroyable d'Isaac, qui est joué par Enzo Rose. On va découvrir que c'est le fils de Charles qui avait été caché depuis longtemps, cette histoire-là. Donc voilà, est-ce que c'est assez bien résumé, Alain ?
Oui, c'est plutôt bien résumé. Moi, j'aurais commencé par Isaac, parce que pour moi, c'est on entre dans cette histoire à travers son regard à lui. Et effectivement, à la faveur des événements du premier épisode et de ce cyclone qui dévaste l'habitation Bellevue, il va découvrir de façon douloureuse et inattendue son lien biologique avec cet homme, Charles Bellevue, qui est non seulement son maître, mais aussi son géniteur, on va dire. Parce que c'est pas encore un père. En tout cas, la question va être, est-ce que ça peut être un père aussi ?
On va découvrir que le personnage de Charles est très très complexe, hein, parce que si au début, effectivement, c'est quelqu'un qui est très très dur, vous avez réussi à le rendre attachant tout ça, hein, que ce soit l'écriture, et ça c'est assez extraordinaire. Alors, on dit que souvent, la réalité rejoint la fiction, et bien là, en fait, la réalité a précédé la fiction, puisque le fameux cyclone s'est abattu 10 jours avant le tournage, qui a mis à mal, effectivement, un peu toute la prépa qui avait été faite.
Absolument, on a eu le désespoir d'avoir le cyclone Garance qui a tapé l'île 10 jours avant le début du tournage, sachant qu'on était déjà en préparation sur l'île depuis un peu plus de 2 mois, et notamment sur la construction du camp des esclaves et tout ça. Donc ça a été un réel cataclysme quand au bout des 3 jours de confinement, on a été déconfiné et qu'on a découvert l'île dévastée. Donc là, on a eu un regroupement de forces vives. On a très vite décidé, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix, de décaler le tournage d'une semaine. On ne pouvait pas décaler de plus parce qu'il y a tout un tas de contraintes financières, de disponibilité de comédiens, des autres décors. Mais ça a été franchement une épreuve assez inédite, enfin complètement d'ailleurs inédite. On sait, on a l'habitude, un tournage ce n'est que des contraintes et des problèmes à résoudre en permanence chaque jour. Là vraiment c'était au-delà de tout ce que j'avais pu éprouver auparavant, quoi. Et donc on a attaqué le tournage avec une espèce d'humilité face à la nature et en disant que bah on allait revivre un petit peu les conséquences d'un passage comme ça et de se dire bah, comment on renaît de ça et comment les liens vont évoluer entre nous. Et en fait, ça a complètement consolidé l'équipe dans un collectif assez fort, d'une flèche, avec un arc bien tendu et avec tout le monde dans le même objectif. Mais c'était une sacrée épreuve. Et surtout derrière, en fait, quand on a reconstruit, on est reparti en repérage, on a reconstruit, on a décalé, on s'est rendu compte que c'était pas tout d'attaquer le tournage, que le cyclone était passé, que maintenant il fallait reconstruire l'île. Et donc ça a été un festival d'hélicoptères en permanence pour recâbler les zones où il y avait plus d'électricité, fournir de la nourriture dans les villages là-haut où les routes étaient bloquées. Et donc c'était un mélange d'Apocalypse Now et de Lost in La Réunion.
Comment Enzo Rose s'est imposé dans le personnage d'Isaac?
Bah, il y a eu beaucoup de comédiens qui ont été auditionnés pour ce rôle. Puis à la fin, il y a un comédien qui clairement émergeait et qui s'est imposé, quoi. Et c'était Enzo. Enzo était Isaac. Isaac était Enzo. Et voilà.
Et un charisme de fou dans cette série pour ceux qui le connaissent en tant que Diego dans Demain nous appartient, parce que tout le monde le connaît dans ce rôle-là. Vous allez voir, il est juste dingue. Il va montrer une autre facette de ce qu'il sait faire, Enzo, et c'est fou.
Mais c'est un acteur, Enzo, et un être humain qui est extrêmement sensible, et qui a une vraie émotion qui circule en permanence et avec laquelle il est très à l'aise, en fait. C'est quelqu'un qui a pas peur de ses émotions et de les laisser transparaître. Et du coup, c'est un outil de travail assez fascinant parce qu'il est Il a un côté, moi je l'appelais mon petit soldat, parce qu'il est très très scolaire, il a très envie de bien faire, il était extrêmement appliqué, avec une fierté de participer, d'avoir été choisi, qui a décuplé son envie de travailler. Donc c'est une force de travail incroyable, et il a accueilli ce personnage les bras ouverts, et il s'est pris, il pleurait tous les jours, il riait tous les jours, il était traversé par une multitude d'émotions, c'était assez fou à voir.
Alain.
Et il a pris ce rôle tellement à cœur que, alors que Enzo n'a pas du tout d'origine réunionnaise, notamment sur le coaching pour les répliques en créole réunionnais qu'il avait, il a fait un travail extraordinaire qui fait que, pour moi, c'est bluffant et que quand je l'entends avoir quelques répliques en créole dans la série, j'y crois, j'y suis, je suis avec lui et il est le personnage.
Il y a une façon, et ça on reconnaît bien ta patte, Laure, très pudique de traiter le sujet, mais avec une sincérité, une force du bruitage, une force de l'angle de la caméra très forte, parce que quand on traite de l'esclavage, automatiquement il y a des scènes très difficiles à mettre en boîte. Et il y a une pudeur malgré tout dans cette série qui nous fait malgré tout ressentir tout ça, que tu as su faire, Laure, qui est absolument génial.
Ouais, merci. C'est vrai que la question de la violence et de comment montrer cette violence a été un enjeu majeur tout au long de la série, de l'écriture et puis derrière nous de comment la transmettre à l'image. Moi, c'est vrai que j'ai effectivement de la pudeur toujours et je crois énormément à la puissance du hors-champ dans la fiction et au travail du son. Et c'est vrai que l'idée, c'était de pas forcément être confronté visuellement à cette violence qui, par ailleurs, est une violence qui, aujourd'hui, malheureusement, ressurgit beaucoup trop sur nos écrans de manière intensive.
Gratuite.
Et gratuite, exactement. Et que là, du coup, c'était de se poser la question plutôt de la conséquence de la violence sur ceux qui la subissaient et ceux qui la donnaient. Et donc d'être dans l'émotion de l'après, plutôt que dans la violence elle-même, quoi, dans juste la demi-seconde qui suit l'acte violent, et d'être dans le ressenti du personnage et de justement laisser l'imaginaire du hors-champ et du son raconter ce qui se raconte vraiment et que tout le monde imagine très bien, mais de se dire, est-ce qui est intéressant, c'est ce que ça fait à celui qui est témoin de cette violence.
Exactement. Dernier point que j'ai envie d'aborder avec vous, parce que c'est absolument magnifique, que ça soit les chants ou la musique, c'est le travail d'Audrey Ismail sur cette série qui est juste dingue. Il y a des chants qui sont d'une beauté et qui vous transpercent le cœur. Mine de rien, elle a fait un boulot extraordinaire, Audrey.
Absolument merveilleux, grand travail d'Audrey qui a embrassé cette histoire parce qu'elle est elle-même réunionnaise. Elle a passé les 10 premières années de sa vie sur l'île de la Réunion, donc elle était aussi extrêmement engagée dans le projet émotionnellement et artistiquement. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu toute une part de mysticisme et d'assumer aussi la grandeur de cette histoire et la charge de l'histoire avec un grand H. Et elle y a mis beaucoup de cœur et beaucoup de talent. Moi, je suis extrêmement admirative du travail qu'elle a fait. Très très fier de ce travail.
Dernier point, Alain, est-ce que ça a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait du bien pour votre histoire, pour l'histoire de la Réunion, de faire cette série?
Ça m'a fait du bien à titre personnel, oui, parce que ça m'a permis en grande partie de reconnecter avec avec ce territoire, avec mon histoire personnelle et familiale. Est-ce que ça fera du bien aux Réunionnais? Je ne sais pas, je l'espère, je le souhaite de tout cœur. J'ai l'impression que ça a fait du bien à la totalité de l'équipe réunionnaise de tourner cette série, et j'espère que ça fera du bien au public réunionnais et hexagonal de voir cette série quand elle sera diffusée.
En tout cas, c'est un rôle très fort, c'est celui de la maman, évidemment, d'Isaac. C'est Lolita Tergemina qui va nous rejoindre dans quelques instants, juste après la bande-annonce. Merci Laure et merci Alain d'avoir été avec nous. Enchaîné, je le rappelle, ça démarre sur France 2 et c'est déjà en ligne sur France.tv. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Interdiction de parler, interdiction de chanter, vous travaillez et vous la fermez. Si vous cueillez moins de 30 livres par jour, ce sera 10 coups de fouet.
Il m'a regardé droit dans les yeux. Je crois qu'il a compris.
Quoi ?
Est-ce que c'est mon père ?
Tu seras peut-être affranchi un jour.
Vous attendez quoi de moi ?
Que tu restes loyal.
Revoir le bâtard avec sa mère, tu m'en passes volontiers.
Hors de mon chemin, sale nègre !
Tu veux la liberté ? Prends-la.
Allez, on continue notre spécial enchaîné. Merci à Laure et Alain d'avoir été avec nous. On va continuer avec celle qui joue la maman d'Isaac, Lolita Tergemina, qui est avec nous. Bonjour Lolita.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On a eu l'occasion de se rencontrer sur le tournage de la série Cut il y a quelques années à La Réunion. C'est encore une histoire incroyable que vous allez découvrir en 2026. Se dire que ça existait, que c'est si proche de nous, finalement dans le temps, c'est assez dingue. Qu'est-ce qui t'a plu, Lolita, dans le projet?
Eh bien, déjà la possibilité de rendre public et de raconter cette période de l'histoire réunionnaise qui concerne évidemment la Réunion, mais qui concerne la France, qui concerne le monde entier, et de pouvoir aujourd'hui mettre la lumière là-dessus et d'en parler de manière libre et de manière aussi décomplexée, de se dire que cette histoire nous appartient et qu'il faut aujourd'hui continuer à faire en sorte qu'elle puisse être entendue pour que les générations qui viennent puissent aussi s'en emparer et aussi construire un chemin différent.
Alors, tu joues le rôle de la maman d'Isaac qui recèle quelques secrets qu'on va vite découvrir, hein, dont celui évidemment que Isaac est le fils du maître.
Eh oui, Isaac.
De Charles.
Tout à fait. Donc, Isaac étant le fils du maître, ça veut dire que moi, en tant que mère, donc c'est une situation qui est complexe parce que on sait que à l'époque de l'esclavage, les corps des femmes ne leur appartenaient pas, et donc on peut imaginer la souffrance et l'injustice qu'a pu vivre cette mère, la mère d'Isaac, et en même temps, elle est aussi très aimante par rapport à son fils. Elle aime ce fils qu'elle a eu, on va dire. Je vais pas spoiler la série, mais en tout cas, je pense que ça a été dans la douleur. Et en même temps, elle a cette envie aussi, c'est de résilience, de faire en sorte que son fils puisse s'en sortir dans ce combat-là. Donc du coup, oui, il y a toute cette complexité de cette maman, et qui aussi trace une sorte d'émancipation qui est assez subtile dans l'écriture d'Alain Moreau, mais qui permet ça aussi, qui permet de voir l'émancipation de la femme à cette époque-là exister et avait déjà une nuance dans ce que les femmes faisaient et combattaient.
Et c'est ce qui va effectivement très vite surgir dans la série. C'est pourquoi effectivement le personnage d'Isaac a quelques faveurs de la part de Charles. Tu as des scènes très très dures. Franchement, même nous derrière l'écran, c'est très compliqué. Mais c'est filmé tellement avec une pudeur assez dingue de l'or. Mais on imagine la souffrance que vit la maman sur certaines scènes, notamment l'épisode 2. Je pense que cette scène, tout le monde va t'en parler. Que c'est son propre fils qui fouette sa mère. C'est assez dingue de subir ça. Et quand on se dit que des hommes et des femmes ont subi ça, c'est juste inacceptable.
Oui, déjà en tant que comédienne, de l'incarner, de ressentir cette atmosphère-là, ces coups, et ça se joue aussi au niveau sonore, d'entendre ce fouet et d'imaginer que c'était pour de vrai, parce que moi je suis comédienne, donc forcément on le fait pas pour de vrai, mais on le ressent, l'atmosphère. Et c'est vrai que moi j'ai été pendant tout le tournage, je pense que j'ai été guidée par des âmes, des esclaves qui sont encore là, qui errent encore et qui ont besoin de justice, qui ont besoin de rendre justice à leur histoire. Et donc en même temps, c'est à la fois très violent, mais en même temps, je l'ai vécu aussi comme une façon de quelque part de rendre hommage à toute cette histoire-là et à ces hommes et ces femmes qui ont subi l'impensable. Et c'est juste cruel, c'est un crime contre l'humanité, tout à fait. Et donc ces fouets, eh ben, sont le reflet de cette violence inouïe. Mais c'est vrai qu'en tant que comédienne, moi j'ai fait une préparation par exemple assez particulière pour tourner cette scène précisément. Je sais que deux jours avant, je m'étais mise dans la tête plein de choses, je m'étais construite une espèce de barrière autour de moi pour pouvoir y aller au moment où il fallait et ne pas la faire plusieurs fois. Parce que c'est aussi ça, parce que psychologiquement, ça impacte quand même quelque chose en nous.
Tout est tourné en décor naturel, alors c'est vrai que est-ce qu'à un moment donné on souffre quand même de la chaleur, des moustiques, de tout ce qui peut être inhérent à un tournage sur les tropiques?
Ben, tout à fait. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça nous met vraiment dans la réalité de l'époque. C'est-à-dire, le soleil, la pluie, la chaleur, les moustiques, tout était inconfortable, en fait, du fait que c'était en extérieur. Donc, quelque part, ça nous aidait à vraiment rester, et à ressentir vraiment cette insécurité-là, ces conditions assez pénibles dans lesquelles étaient les esclaves quand ils vivaient ces situations-là. Donc, quelque part, ça nous renforçait cette dureté, ça nous permettait de vraiment la ressentir, les pieds par terre, dans la terre, on était sale, on était boueux, on transpirait, donc tout ça nous aidait.
Et t'as tellement de choses qui passent par le corps, parce que finalement t'as peu de dialogue, il y a énormément de choses qui passent par le regard, par le corps, par la gestuelle de ton personnage.
Oui, c'est un personnage qui effectivement est puissant par son silence. Moi, je l'ai beaucoup abordé par le corps, parce que j'ai tout de suite senti qu'elle portait en elle un poids, le poids de son histoire, le poids de l'histoire de son fils, le poids de l'histoire de son île aussi, et de cette époque de l'esclavage. Donc, j'ai tout de suite senti que Célestine, en tout cas, elle avait quelque chose. Et puis, c'est aussi, quand on regarde les images et tout ça, des esclaves, ils ont tout le temps la tête baissée, les épaules penchées, le dos courbé. Et donc, j'ai essayé de sentir, j'ai essayé de lire beaucoup, pas de regarder, parce que je ne voulais pas être dans l'imitation de films. J'ai voulu vraiment ressentir de l'intérieur qu'est-ce que ça faisait d'être une esclave, comment on était soumis à la douleur, au soleil, au cou, etc. Donc j'ai vraiment travaillé sur le corps et sur le silence et sur le regard, sur les respirations intérieures.
T'as rencontré avec Enzo, il est incroyable.
Incroyable. Je crois que j'ai une fille dans la vraie vie et je crois que j'ai maintenant un garçon. Ça a été incroyable dès le premier jour de tournage où on s'est rencontrés, on s'est regardés, on s'est raconté nos histoires personnelles. Ça a été assez fort. Enzo, il a une histoire particulière aussi et j'ai senti qu'il avait besoin d'être rassuré par moi dès le début du tournage. Je crois que j'ai été pour lui en tout cas quelqu'un sur qui il s'appuyait énormément et moi, voilà, je le voyais vraiment comme un fils qui, en plus en tant que jeune acteur, etc. Je le voyais évoluer au fur et à mesure du tournage de la série. Je l'encourageais, je l'aidais et en même temps, il est extraordinaire ce jeune homme. Il y allait vraiment et quitte à des fois à être vraiment, à se mettre vraiment le cœur ouvert, mais il y allait et j'aime beaucoup ce garçon.
Olivier Gourmet aussi incarne un Charles tellement dur et à la fois il a réussi à le rendre attachant parce qu'on s'aperçoit qu'à un moment donné, il commence à avoir des regrets, il y a plein de choses qui passent aussi dans ce personnage qui est hyper important.
Oui, ça rend toute la complexité de la chose en fait. Et je pense que c'est lié aussi au fait de tourner cette série en 2026. Je crois qu'il y a du temps qui est passé par rapport à ce que ça a été vraiment. Et je trouve que Alain Moreau a réussi à écrire ce personnage avec la lumière de ce que c'est aujourd'hui d'être un maître. Qu'est-ce que c'est qu'être un blanc? Et du coup, je trouve qu'il a réussi à amener cette complexité-là entre être un blanc aujourd'hui et être un blanc avant. Et a amené aussi le fait que c'est une question d'humanité et qu'on est tous des hommes et que malheureusement il y a des fois où on franchit des limites qui sont pas du tout acceptables et que la moindre des choses c'est de pouvoir le reconnaître et de pouvoir dire pardon. Et je trouve que ce qui est beau dans le personnage d'Olivier, c'est ça, c'est qu'on sent qu'il fait des choses mais qu'en même temps il apprend beaucoup au fur et à mesure de la série, de lui, et il se remet en question, et ça c'est beau.
Vous allez découvrir Enchaîné, les deux premiers épisodes débarquent, si vous avez hâte de le découvrir, c'est déjà en avance sur France.tv gratuitement, vous avez l'intégralité de la série. Merci beaucoup Lolita d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et puis, ben, bonne découverte à tous.
On a eu une révolte des Noirs hier.
Depuis combien de temps vous m'indigancez dans mon dos?
J'en ai assez d'être une épouse parfaite.
Tout ce qu'on a, c'est maintenant.
Si tu as la mauvaise idée de retrouver ce nègre, je lâcherai à vos trousses tous les chasseurs de l'île. Je laisserai ma fortune s'il le faut, mais je vous retrouverai.
J'ai tellement peur de ce qui va se passer maintenant.
Moi, je suis quoi pour vous? Un homme? Bon, nègre.
Et on termine notre spécial enchaîné avec Enzo Rose, chose première, chose due. Il est avec nous. Bonjour Enzo.
Bonjour Alain.
Merci d'être là. Alors c'est vrai que le rôle d'Isaac, il est incroyable. Comment t'as abordé ce rôle ?
De la manière la plus simple au monde, je me suis imprégné aussi de mes camarades de jeu lors des sessions de lecture. Le mois de préparation, j'ai passé beaucoup de temps à lire, à relire, à retourner le scénario dans tous les sens pour me plonger dans le cœur du personnage. Et puis j'ai lu un roman de Frédéric Douglas qui s'appelle Mémoire d'un esclave. J'ai aussi lu quelques lignes du Code Noir. J'ai regardé beaucoup de films, beaucoup de films, oui, américains qui traitaient du sujet, et les peu de films français qu'on a qui parlaient aussi de ce sujet.
Alors, c'est vrai que Laure et Alain me disaient il y a quelques instants que tu avais été hyper scolaire, tu t'étais carrément mais mis dans le personnage, mais vraiment à bras-le-corps.
Bien sûr, en fait j'avais une volonté personnelle de représenter ce personnage et par la même occasion cette histoire, parce que ça me tient à cœur. J'ai moi aussi des origines martiniquaises, et puis même en tant que français je trouve que c'est important de raconter cette histoire qui est si peu racontée dans notre pays. Et aussi de manière très scolaire, comme ils ont pu le dire, je voulais pas décevoir autant les auteurs que la Réal, mes partenaires de jeu qui sont quand même fabuleux. Et le public, même si j'y pensais pas directement, c'était les débuts, je me suis dit les gens vont le voir et je veux que ce que je raconte, que mon personnage raconte dans cette histoire-là soit le plus prenant, le plus vibrant possible.
Quand Isaac apprend que Charles est son père, c'est vrai que ça crée un choc psychologique. Il commence à comprendre pourquoi il a le droit des fois des traitements de faveur, un peu en quelque sorte.
Bien sûr. Oui, complètement, complètement. Et puis ça va l'emmener petit à petit à se poser des questions, à être bousculé de toutes parts, parce que autant son père est le maître de la plantation, mais autant sa mère est une esclave, donc tiraillé de tous les côtés, il sait pas trop comment en faire, et puis il va devoir apprendre sur le tas à avancer et à survivre. C'est ce que j'aime bien dire en parlant de Isaac, c'est de la survie.
Toi qui interprètes Diego depuis plusieurs années dans Demain nous appartient, je trouve que ce rôle t'a permis de montrer tellement une autre facette et une autre étendue de ton talent.
Oui, et je remercierai tous les jours la réalisatrice, les auteurs, la prod de m'avoir choisi, parce que ce genre de projet, c'est ce que j'adore, c'est ce que j'aime faire. Et si j'ai la possibilité d'avoir des rôles aussi géniaux et prenants, vibrants, complexes et engagés, ce sera avec plaisir. Donc je passe un petit appel, voilà.
Ton meilleur moment pour terminer?
Tous les jours. Tous les jours de ce tournage, de ces 3 mois de tournage, ont été un pur moment. Voilà, autant les moments off que les moments in. C'était absolument magique de vivre cette aventure avec tout le monde.
On va te découvrir cette semaine dans Enchaîné. Pour ceux, pour les impatients, vous allez pouvoir déjà le découvrir sur France.tv, évidemment en intégralité. Enzo, ce qu'on peut te souhaiter pour la suite?
Sans prétention, que du positif et plein de beaux projets.
Un beau rôle comme ça. Merci beaucoup d'avoir terminé cette spéciale enchaînée avec nous. On te dit à bientôt.
À bientôt, au revoir Alain.
Allez, dans un instant, ne bougez pas. Alexandre Lamy et Rime qui réussit s'installent à mes côtés. C'est notre spéciale pour le plaisir. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook. Chut, on écoute la télé.
Choisir maman aussi. Il y a ceux qui veulent.
plus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné s'appelle Pour le plaisir, ça sort mercredi au cinéma. Et c'est vrai qu'on va parler beaucoup d'amour aujourd'hui, vous allez voir dans cette émission entre C'est quoi l'amour et Pour le plaisir, deux films qui sortent, on parle d'amour effectivement cette semaine. Et Pour le plaisir, on va parler de plaisir féminin. Alors c'est vrai qu'en avril, on les a vus un peu séparément. Il y en a une, c'était dans Mauvaise Pioche, le film de Gérard Jugnot. L'autre, c'était dans Compostelle. Elles sont encore en salle, vous pouvez aller les voir. C'est Rim Kérissi et Alexandra Lamy réunis justement pour le plaisir avec nous dans Chut, on écoute la télé. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
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 Merci d'être là. Qui a eu cette idée de dingue de faire ce film sur l'apparition de Womanizer en France?
Donc ce sont deux auteurs qui s'appellent Gary Kikoin et David Solal qui ont vu un reportage sur les créateurs allemands du Womanizer. Ils se sont dit qu'il y avait peut-être une idée sympa. Ils me l'ont proposé. J'ai dit non. Je me suis dit mais ce sont des grands malades. Jamais je vais parler d'un sextoy. Et finalement, en creusant un peu l'histoire, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire autour de l'histoire de la femme et la raison pour laquelle elle s'interdit l'orgasme ou elle n'y arrive pas en tout cas.
Vous allez voir que c'est effectivement beaucoup plus compliqué que ça comme sujet, traité sous fond de comédie. Ce qui est très appréciable, c'est qu'on bascule jamais dans la vulgarité. On est vraiment sur une histoire d'amour en même temps, celle que tu formes, Alexandra, entre Fanny et Tom. Fanny qui va tout simplement avouer enfin à Tom, au bout de 20-30 ans de vie commune, qu'elle n'a jamais eu d'orgasme avec lui. Donc lui, évidemment, va pas le prendre très très bien au départ. Et c'est là qu'il va y avoir toute la remise un peu en question du couple sous les yeux médusés de leur fille. C'est ça qui est drôle, évidemment, et qui va traiter de cette comédie. Est-ce qu'on hésite quand on a un scénario comme ça qui arrive, Alexandra? Au contraire, on se jette à corps perdu.
On dit oui, oui, oui. Non, mais c'est génial d'abord parce que, alors évidemment, puisqu'on sait Rime qui vous appelle, qui a ce tel enthousiasme, qui vous explique ce sujet-là, tu te dis c'est génial, c'est un sujet tellement important, c'est un sujet si tabou. Parler du plaisir féminin, c'est incroyable qu'en 2026, on ose à peine en parler, c'est quand même fou, on a l'impression que tout de suite c'est tabou. Qu'elle me dit que c'est effectivement avec François Cluzet, je lis le scénario. Alors évidemment, il y a des choses où on se dit, il faut faire attention avec ce genre de sujet, c'est comment il va être traité et comment il va être réalisé. C'est hyper drôle. Ce qui est génial, c'est que t'as une réalisatrice qui sait filmer la comédie, parce que moi, pour moi, ça c'est hyper important, parce que la comédie, je la connais, et si t'as un réalisateur qui sait pas la filmer, c'est un vrai problème. C'est hyper élégant, c'est raffiné, c'est un sujet important, c'est une vraie histoire d'amour. Et ça, c'est génial, parce que c'est une vraie histoire d'amour, et c'est ultra drôle. Parce que nous, on s'est amusés, mais là, en ce moment, on est en tournée province. Parce que c'est pour ça que moi, j'adore faire les tournées province. Pour avoir le retour. Parce que là, d'un coup, moi, je deviens spectatrice des spectateurs. D'abord, on les entend, parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on démarre les films, on les entend. Et là, on a des retours. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça, et pourtant, j'en ai fait beaucoup des comédies. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Et que ça soit les hommes, ou que ça soit les femmes.
Parce que c'est pas un film que pour les femmes, hein. Je vous le dis. Vous allez voir, tout le monde va y trouver son compte, va en prendre pour son compte. Tout le monde va être servi, en tout cas, c'est vrai, dans cette comédie.
Et d'ailleurs, je suis étonnée parce que je pense, alors, soit c'est la bande-annonce, soit parce qu'ils, enfin, ils savaient le sujet. Parce que nous, c'est là, on est en tournée province, donc le film, il est pas, enfin, voilà, le film n'est pas encore sorti, il sort dans deux jours. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, on a vu des hommes tout seuls. Ouais, mais il y a des hommes qui sont venus tout seuls en bande. Ouais. Voir le film. C'est quand même dingue.
C'est parce qu'ils sont curieux, ils veulent avoir des infos, ils savent que c'est ils savent que derrière tout ça, ils vont pouvoir être un meilleur coup. Ouais, c'est
intéressé tout ça finalement.
Encore une fois, c'est intéressé.
Non, et puis il y a un casting de dingue parce que le film appelle quand même à deux acteurs qui sont des acteurs de génie, Alexandra Lamy, François Cluzet, ce sont des pointures de comédie. Alexandra parlait de la comédie, mais c'est aussi un film qui est assez touchant, même très touchant. Les gens nous disent j'ai ri, j'ai pleuré. On a un casting de ce mon rôle extraordinaire. Les gens nous disent merci, merci, merci. Donc,
De
parler du sujet et puis d'avoir passé un moment comme ils n'en avaient pas passé depuis longtemps. Ils nous le disent et nous, on est vraiment surprise de cet accueil qui est si généreux et on s'attendait pas à ce que ça soit aussi énorme.
Rime, quand tu les as vus tous les deux, que tu as commencé à voir les premières scènes se tourner, moi je veux dire, je suis sorti du film, le couple matchait tellement bien entre François et Alexandra que j'étais persuadé qu'ils avaient déjà fait un film ensemble ou tourné ensemble, alors que pas du tout. Et ça c'est assez magique.
C'est un couple inédit et je vais laisser Alexandra parler de son partenaire. Mais en tout cas, moi, pour pouvoir avoir traité ce sujet qui est un sujet quand même assez glissant, il fallait que j'ai deux acteurs qui connaissent la comédie, qui sont très sincères, qui sont authentiques et pour qui le spectateur a une empathie. Quand on les voit tous les deux, on est amoureux d'eux. Je n'ai cessé de leur dire que je les aimais et ils rayonnent. Alexandra, toi, c'est donc ta première fois avec François. Comment ça s'est passé?
Et nous, on va les aimer très fort mercredi, je vous le dis.
Mais c'est pour ça que la force d'un réalisateur, c'est aussi ses choix. Et de choisir un couple, c'est pas évident, en fait, de faire le casting. Et quand elle m'a dit avec François, je me dis, putain, c'est génial. D'abord, j'adore évidemment l'acteur, parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui sait manier la comédie, qui représente les hommes, j'allais dire, quelque part, parce qu'il a du charisme, il est vulnérable aussi. Enfin, je veux dire. Et je me dis, génial de pouvoir tourner avec lui, mais évidemment, on a toujours un peu une petite appréhension au premier jour de tournage, parce que c'est quand même un grand acteur, donc, t'es toujours en train de te dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Et en fait, la première scène qu'on tourne ensemble, c'est la première scène du film. Et ça, je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais, il y a la grâce. Je ne sais pas pourquoi, mais tout de suite, mais c'était immédiat avec François, on a été à l'aise. Tout de suite, on avait l'impression que ça faisait 20 ans qu'on était ensemble. Alors, je sais pas, on sait. D'abord parce que je pense que...
Le corps, le talent.
Le talent, puis je crois qu'en tant que partenaire, on avait très envie de travailler ensemble.
Il y avait aussi beaucoup de respect mutuel. François et Alexandra se respectent énormément. Ils avaient un respect pour votre carrière mutuelle. Ils se sont apportés énormément. Et ils sont des acteurs très complémentaires avec leur singularité. Je pense que vous dansiez sur le même tempo, mais que vous aviez un truc en plus. En fait, ils ont tous les deux un truc en plus. De toute façon, ce sont les meilleurs acteurs.
Mais oui, mais c'est vrai, que je vois, en fait, j'ai bien ressenti les choses quand même en me disant, mais ils ont déjà joué ensemble, c'est pas possible. Non. Et pourtant, voilà, couple inédit, et ça matche tellement bien entre les deux. Marcel qui matche bien aussi quand même avec Fanny, c'est sa sexologue. Parce que Rime, elle est tellement drôle, elle est fantasque, elle est sans tabou, elle a toutes les qualités, cette femme Rime.
J'adorerais avoir une sexothérapeute comme ça, mais alors là, je signe immédiatement, j'y vais tous les jours, moi.
Mais tu es la bienvenue. J'ai adoré jouer ce personnage qui est en fait un personnage qui est dans la prolongation de ce que j'ai écrit, c'est-à-dire qui est porte-parole des raisons pour lesquelles les femmes ont des blocages, et qui est aussi, on est dans un cabinet élégant, beau, avec une sexothérapeute qui est un peu loufoque, justement, on n'est pas dans quelqu'un de sinistre, et avec le sourire, elle pousse Alexandra Lamy à en parler à son mari aujourd'hui, et Alexandra Lamy la prend au mot et se dit, bon bah aujourd'hui c'est aujourd'hui, et elle attend pas 20 minutes de plus, elle en parle à son mari direct.
Mais en fait, inconsciemment, elle est très elle, la sexothérapeute. C'est-à-dire que elle, parce que là aussi, tu vois, sexothérapeute, tu te dis la scène, enfin, quand tu la lis, tu peux te dire, oh là là, le petit canapé gris, le mur vert, le tableau derrière, qui doit être un peu chiant. Et en fait, elle a amené, effectivement, comme elle dit, la prolongation aussi de tout ce qu'elle a, elle s'est nourrie. Donc elle arrive avec cette sexothérapeute qui dit les choses et en plus qui dit de façon intelligente parce que c'est quand même le sujet du film. Elle est évidemment très esthète, elle aime ce qui est beau, Rime. Et donc vous voyez le décor, il est sublime, ce tableau, même le tableau, il est extraordinaire, démarrer sur ce tableau qui est évidemment un symbole très important pour le film mais qui est pas pareil, c'est pas grossier, c'est pas vulgaire, c'est beau d'avoir de l'espace, d'agrandir. En fait, c'est très ça te représente beaucoup, je trouve.
Merci.
Pour le plaisir.
La beauté, l'élégance.
Exactement. Pour le plaisir, on va écouter la bande-annonce. On revient juste après avec vous. Rime Guérissi et Alexandra Lamy sont nos invités exceptionnels aujourd'hui pour la sortie du film. Et on va s'écouter la bande-annonce. On revient juste après. À tout de suite.
Pourquoi vous venez me voir qu'aujourd'hui?
Je n'ai jamais eu d'orgasme.
Si vous voulez jouir, va falloir bosser.
Ça marche pas. Bon.
Travailler le lâcher prise.
Oui, oui, oui.
Gérer la culpabilité.
J'ai envie de jouir. J'ai le droit.
Il va falloir parler à votre mari.
En 20 ans, t'as jamais joué?
Non.
10 femmes sur 10 avouent déjà avoir simulé.
La taille moyenne au repos serait de...
Dame!
J'aimerais comprendre comment fonctionne le plaisir féminin.
Odile, mon petit, vous pouvez venir, s'il vous plaît? Vous inquiétez pas, on va pas déshabiller Odile.
Premier cadeau que j'ai fait à ta mère.
L'adorer que je lui fabrique des trucs.
Alors c'est vrai que vous allez certainement beaucoup rire en allant voir le film, mais moi j'imagine il y a certainement eu des scènes qui ont été hyper cocasses à jouer, et là qui se retient le plus facilement? Est-ce que c'est toi Alexandra ou c'est toi Rime derrière le combo?
Bah je pense que moi je me retiens.
Alexandra elle sait se retenir et moi hélas il m'est arrivé une scène avec Alexandra justement de sexothérapeute où j'ai pas pu retenir un fou rire. Alexandra était beaucoup trop drôle. Il y a eu un imprévu qu'on a gardé à l'image. Je vous conseille d'aller voir le film et de nous écrire. Vous allez tout de suite savoir de quoi il s'agit. Mais pour indication, Alexandra, par mes aventures, ressemble à un dalmatien.
Voilà. Non mais c'est vrai, il y a une scène. Mais de toute façon, je pense que le public, en lui disant ça, je suis sûre qu'il va trouver tout de suite. Parce que tout le monde nous en parle. Enfin, attendez, là, cette scène-là, vous vous êtes marré, c'est sûr. Et ce qui est vrai. Mais moi, je suis restée stoïque.
Mais là, t'as pas pu la refaire 36 fois, celle-là, mon ami.
Bah non, mais c'est pour ça qu'Alexandra, professionnelle, elle est restée stoïque. Et moi, je, en tant que metteur en scène, j'ai pas du tout envie de foirer la scène. Mais mon plus beau souvenir de cinéma, c'est que j'étais en pleurs de rire. J'avais toute mon équipe derrière en pleurs. Et je devais quand même jouer et lui donner la réplique. Je n'ai pas réussi à sortir ma phrase. Et donc Alexandra a continué sans ma phrase, tellement je ne pouvais pas sortir ma phrase. C'était impossible.
Mais tu sais que je me suis dit à ce moment-là, moi qui commence à te connaître un petit peu quand même aussi, j'ai dit là, elle a l'œil qui frise rime. J'ai dit ça, cette histoire, c'était pas prévu. Donc maintenant, vous avez envie de savoir de quoi on parle ? Ben vous allez voir Pour le plaisir mercredi au cinéma. Ouais, voilà, tout simplement. Alors c'est vrai que Fanny, elle a tout plein de personnages secondaires autour d'elle, entre sa sœur, sans tabou. Fantasque au possible, sa sexologue, sa fille, qui elle, en fait, est 10 fois plus coincée que sa mère, finalement, ouais, avec cette histoire. Mitty Hazanavicius, elle est géniale.
Elle est super, et en plus, c'est vraiment la jeune fille qui devient le parent de ses parents. C'est fou, c'est nous qui redevenons des ados, en fait. Ouais. Ça, c'est génial. Et je trouve qu'elle a, parce que le rôle n'était pas facile. C'est vrai, hein, c'est un rôle qui était, tu peux être un peu, voilà, il faut être vraiment sur le fil, parce que soit tu fais une gamine un peu hystérique, et du coup, c'est un peu chiant. Soit elle est trop molle et ça marche pas non plus. Enfin, il fallait vraiment qu'elle trouve le bon rythme, le bon équilibre. Et je trouve qu'elle a été super.
Et c'est vraiment le clown blanc, parce que à travers le regard de Mitty, donc de la fille, on est un peu le public et elle voit ses parents mais partir mais dans des délires mais les plus fous les uns que les autres. Elle a été très forte. C'est son premier rôle au cinéma. On a aussi Camille Aumont-Ducarnel qui est une leader d'opinion. Elle aussi, c'est son premier rôle au cinéma. Donc on a des acteurs confirmés comme Alexandra Lamy, François Pluzet, François-Xavier de Maison, Kian, mais on a aussi des premiers rôles, donc ça amène de la fraîcheur au film de pas avoir que des gueules connues, je trouve.
Ouais. Non, c'est super. Puis effectivement, ma sœur Delphine Marie, elle est tellement extraordinaire, elle est géniale.
Ah, super ouais, cassé. C'est vrai que. Alors, on va découvrir comment Tom effectivement va se sortir un petit peu de cette situation. C'est vrai que on aurait pu penser que ça allait être un homme blessé, de découvrir effectivement le poteau rose. Mais non, c'est un ingénieur en fait au chômage depuis quelques mois qui est un peu à la dérive, limite. Pas dépressif, mais qui vit mal quand même ce chômage. Et ça va le faire renaître lui aussi, finalement, toute cette histoire, parce qu'il va essayer de comprendre. Et en même temps, bah, le film repose aussi là-dessus, sur la création de cet engin, on ouais, peut dire.
Mais c'est ça aussi qui est beau, et je pense que c'est ça aussi que où les hommes se projettent aussi dans François, mais du coup, dans l'histoire d'amour. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a jamais osé parler, qui finit par dire... Mais qui, quelque part, un peu à la fin de la conversation, quand même, s'en va, fuit un peu, et lui, il dit, attends, là, tu viens de me dire un truc énorme. Déjà, attends, excuse-moi, mais oui, bien sûr, je viens d'en prendre un coup dans l'ego, quand même. Parce que quand même, c'est hyper violent, parce que quand même, ta femme vient de te dire que ça fait 20 ans, en gros, bah, qu'elle a simulé. Donc, ce qui est quand même, pour un homme hyper violent, elle a réussi à le dire avec beaucoup de courage, mais quelque part, derrière, elle va fuir, alors que lui, il va se dire, ah non. Alors là, maintenant, on va prendre les choses en main. Tu viens de me dire ça et on va aller jusqu'au bout. Et ça, j'adore ça parce que je trouve que c'est là où, en tant qu'homme, les hommes se projettent en se disant, bah ouais, ils vont y aller ensemble. Et là où l'histoire d'amour démarre, quoi.
Il vous reste 2 dodos avant de voir Pour le plaisir. Donc l'avantage, oui, c'est que si vous voulez vous faire 2 soirées ciné, vous pouvez aller voir Compostelle et Mauvaise Pioche. Oui. C'est encore dans certaines salles de cinéma. Il nous reste 1 minute chacune. J'ai envie de savoir ce que vous avez envie de dire au public maintenant et aux auditeurs pour qu'ils aillent voir Pour le plaisir mercredi dans les salles.
Bah, vous avez envie de vous marrer, de voir un couple iconique, de voyager, et bah allez voir Pour le plaisir.
Mais moi j'allais dire la même chose. Vous avez envie de rire avec un sujet profond, mais de façon légère et surtout de rire. Moi je suis tellement étonnée de ces retours du public de. Mais j'ai jamais autant ri. Mais allez rire, on a tellement besoin de ça en ce moment. Ben oui. Une bonne. En fait, je dirais, c'est les vraies bonnes comédies. Et pourtant, je viens de la comédie. C'est un sujet dramatique, mais extrêmement drôle. Et ça, c'est chouette. C'est rare.
Pour le plaisir, mercredi au cinéma, tu embrasses Chloé aussi, très fort. Alexandra, je sais qu'elle est, elle est en tournage de son premier film, alors on croise les doigts très fort pour elle. Allez, ma fille va se décliner en long métrage dans les mois qui viennent. On a hâte déjà de voir le résultat. On sera là pour elle, évidemment, aussi. Merci à toutes les deux et à bientôt.
À bientôt.
Merci, à très très bientôt.
Figure-toi qu'il me fabrique un sextoy.
C'est une vanne.
C'est la meilleure idée que t'aies eue depuis très longtemps. Si tu veux, on fait équipe.
Tu vois ce qui se passe quand tu veux ça?
C'est ouais. Ça qu'il faut.
Tu peux l'essayer dans le bain?
Ah, j'ai déjà fait mal.
Prends ça.
Pose-moi cette ventouse tout de suite.
J'aurais besoin de la référence du livre Le sexe pour les nuls.
Faut que tu te concentres sur son plaisir à elle.
Depuis quelque temps, je suis terrifié à l'idée de te perdre.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. Nous aurons le bonheur de recevoir une grande partie de l'équipe de la série Karma qui est sur France.tv depuis maintenant quelques semaines, dont Bastian de la Star Academy qui sera notre invité, ou encore Camini et Véronique Jeannot. Ça s'annonce un bon moment.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.